Non, je vous en prie. C'est déjà compliqué pour moi. C'est une première. Mais...
Bienvenue dans l'arène politique. Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot et le reste de l'exécutif font face en ce moment aux députés. Question au gouvernement houleuse. Nous irons à l'Assemblée nationale dès le début de ce journal. Jean Castex, le Premier ministre, assume totalement la nomination à l'intérieur de Gérald Darmanin sous le coup d'une plainte pour viol. Il rappelle la présomption d'innocence. Une présomption d'innocence à double vitesse, répond la sénatrice PS Laurence Rossignol.
Lorsqu'il s'agit de malversation financière, ça va très vite pour évincer les personnalités politiques mises en cause et on en déduit que les violences sexuelles seraient moins graves que les malversations financières.
Dans ce journal également, Valérie Pécresse place Île-de-France Mobilité en cessation de paiement. Elle refuse de payer la SNCF et la RATP tant que l'État ne compense pas les pertes liées au coronavirus. Manifestation à Toulouse devant le siège social d'Airbus. L'avionneur compte supprimer 3500 emplois dans la ville rose. Manifestation également à Morlaix, dans le Finistère, ville sinistrée, 20% de chômage, qui se bat pour conserver son centre de maintenance aéronautique. 276 emplois doivent être supprimés.
C'est un sentiment de dégoût, un sentiment d'injustice totale parce qu'on a sacrifié nos familles et on nous laisse sur le carreau. Nos politiciens, ils nous prennent pour des cons et encore plus la Bretagne. Donc maintenant, ça commence à suffire.
La météo, Anissa ?
Avec du beau temps presque partout cet après-midi. Presque, c'est très important puisqu'une perturbation touche actuellement le nord et le nord-ouest du pays. Il fait toujours très chaud dans le sud. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils sont depuis une heure et demie cuisinés, questionnés par les députés. Premier test politique pour les nouveaux ministres, les questions au gouvernement. Claudia Bertram, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Comment s'en sortent les nouveaux membres de l'exécutif ?
Eh bien, ils tentent tant bien que mal de se faire entendre dans l'hémicycle. C'est une première séance mouvementée avec un brouhaha de fond. Les députés de l'opposition, tous bords confondus, donnent de la voix. Ceux de la majorité affichent leur soutien au gouvernement et applaudissent longuement Jean Castex avant sa première prise de parole.
Je voudrais d'abord vous dire toute l'émotion et tout l'honneur que je ressens m'exprimant aujourd'hui pour la première fois devant vous.
Seul le Premier ministre a la parole. Vous l'écoutez.
Le Premier ministre ne se laisse pas déstabiliser. Il prend son temps, détache bien chaque mot qu'il prononce, à tel point que sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon commente déjà avec Castex « Les arbres poussent entre les mots, quel ennui ». Un cadre de la majorité l'admet. On dirait un instit qui fait la dictée. Dans l'hémicycle toujours agité, le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est lui aussi chahuté par les députés de l'opposition pour sa première prise de parole.
Non, je vous en prie, C'est déjà compliqué pour moi, c'est une première. Mais est-ce qu'on décompte les interruptions ?
Non, on ne décompte pas.
Ah ben voilà.
On souffre en silence.
Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui glisse un petit conseil à Éric Dupond-Moretti et lui accorde un temps de réponse un peu allongé. Un premier face-à-face assez tendu donc entre le nouveau gouvernement et les députés.
Claudia Bertram, bonjour Jean-Rémy Baudeau.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Le Premier ministre, on vient de l'entendre, et comme tout le reste du gouvernement à l'Assemblée nationale, mais la journée de Jean Castex est loin d'être terminée. Il est sur tous les fronts.
Oui, depuis sa prise de fonction vendredi, Jean Castex multiplie les déplacements de rien que dans le week-end dernier. Ce matin, il est à l'Assemblée, cet après-midi au Sénat, avant d'aller visiter le tribunal de Bobigny avec le garde des Sceaux. Il semble un peu avoir la bougeotte. Et à chaque fois, il prend la parole, se branche sur les dossiers, promet des réformes ou de l'argent. Prenez hier soir sa visite surprise au Ségur de la Santé. Il a débarqué dans une réunion décisive avec les syndicats en annonçant une rallonge de plus d'1 milliard d'euros pour les salaires des soignants. Jean Castex sur toutes les balles. Santé, chômage, retraite, tout sera mis sur la table, a-t-il promis ce matin devant les parlementaires. Et ça n'est pas terminé. Le nouveau Premier ministre est attendu en Guyane dimanche. Il doit prononcer un discours de politique générale la semaine prochaine avant de rencontrer les partenaires sociaux sur les retraites. Tout ça donne un peu le tournis. C'est peut-être ça le style Castex, mais c'est surtout le signe qu'Emmanuel Macron veut que le gouvernement agisse vite et que ça puisse se voir.
Jean Castex qui s'est exprimé ce matin chez nos confrères de BFM TV, le Premier ministre questionné sur la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, malgré l'enquête pour viol qui le vise. Écoutez sa réponse.
J'assume totalement cette désignation. Il a le droit, comme tout le monde à la présomption innocente, laissez faire.
Donc laissez la plainte faire. Pour viol n'est pas un obstacle.
Parce que, vous le savez,
oui.
Il y a déjà eu, sur ces mêmes faits, des actes d'instruction qui ont été clairement des actes de rejet. Et d'autre part, parce que M. Darmanin bénéficie complètement de la présomption d'innocence. Voilà. C'est un sujet, parmi bien d'autres, avec lequel je ne transige pas.
Gérald Darmanin a droit, comme tout le monde, à la présomption d'innocence, assure le chef du gouvernement. Le problème, c'est que cette même présomption d'innocence, elle est à double vitesse, répond sur Europe 1 la sénatrice PS Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes.
J'observe quand même que lorsqu'il s'agit de malversations financières, de suspicion, même avec la présomption d'innocence, ça va très vite pour exclure, évincer les personnalités politiques mises en cause. Et on en déduit que d'un certain point de vue, en fait, les violences sexuelles seraient moins graves que les malversations financières. Et je pense qu'elles sont aussi graves que les malversations financières. Et puis, les avocates de la plaignante ont fait remarquer que c'était quand même pas si simple pour elle, pour la plaignante, de devoir être entendue, que la parole de la plaignante soit écoutée, prise avec tout le sérieux qu'elle doit être prise, avec laquelle elle doit être prise, quand en face, vous avez le ministre de l'Intérieur.
La sénatrice PS Laurence Rossignol, qui était l'invitée ce matin à 7h40 de Pierre de Villeneuve. Le Premier ministre annonce également vouloir décaler la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage. Bonjour Olivier Savin.
Bonjour Julien.
Vous suivez ce dossier pour Europe 1. Qu'est-ce que ça change?
Alors rappelez-vous, la réforme de l'assurance chômage instaurée par le gouvernement Philippe comportait deux étapes. La première est déjà appliquée depuis novembre dernier. C'est celle qui durcit les conditions pour être indemnisé quand on perd son emploi, avec l'exigence d'une durée de cotisation minimum plus longue qu'auparavant. La deuxième étape, elle, devait entrer en vigueur le 1er avril et a été suspendue par Emmanuel Macron en raison de la crise sanitaire, suspendue jusqu'au 1er septembre. Décaler la mise en œuvre de la réforme, ça semble vouloir dire que la deuxième étape sera finalement repoussée au-delà du 1er septembre, mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement ne renonce pas à la mettre en œuvre.
C'est pourtant ce que demandent les syndicats qui, sur ce sujet, sont unanimes.
Oui, tous réclament son abandon pur et simple parce que, disent-ils, plus encore que le premier volet de la réforme, c'est le deuxième qui est inacceptable. Alors que prévoit-il ce deuxième volet? Il instaure un nouveau mode de calcul de l'allocation chômage qui, en échange d'une période d'indemnisation plus longue, réduit le montant journalier versé aux chômeurs. En tout cas, le montant journalier versé à ceux qui, avant de perdre leur emploi, alternaient des périodes de travail et des périodes sans travail. C'est l'une des réformes les plus dures socialement qui s'est opérée ces 25 dernières années, 17 en mars dernier, la CFDT. Visiblement, le gouvernement tient à ce nouveau mode de calcul. Jean Castex reconnaît simplement qu'avec l'explosion attendue du chômage, les conditions pour son entrée en vigueur au 1er septembre ne sont pas réunies.
Précision signée Olivier Samin. Ce sera moins pire que prévu. Selon l'INSEE, le recul du produit intérieur brut en France n'atteindrait que 9% en 2020, alors que le gouvernement lui table sur un effondrement de 11%. Et puis cette mise en garde du Haut Conseil sur le climat ce matin dans son rapport annuel, la politique de relance ne doit pas oublier la planète. On est très loin des objectifs de lutte contre le réchauffement, alerte le Haut Conseil qui dénonce les aides apportées sans condition aux secteurs les plus polluants comme l'automobile ou l'aviation.
Il est 12h38. Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, nous irons dans le Finistère à Morlaix, ville sinistrée qui a appris il y a quelques jours que l'un de ses derniers poumons économiques allait fermer. Le centre de maintenance de la compagnie aérienne Hop, les habitants depuis ce matin se mobilisent pour sauver les 276 emplois. A tout de suite.
12h41, la suite du journal, Julien Pierce.
C'est une ville déjà sinistrée avec un taux de chômage dépassant les 20%. Morlaix, dans le Finistère, est sous le choc depuis les annonces d'Air France. Les emplois des 276 salariés du centre de maintenance de la filiale régionale Hop devraient disparaître. Fermeture du site prévue d'ici 2023. Alors habitants, élus, salariés se mobilisent depuis ce matin. Manifestation et comité d'accueil pour le directeur de l'entreprise, François Coulon.
Oui, ils étaient ce matin plusieurs centaines à faire une haie de déshonneur au directeur général de Hop, venu présenter le plan de condamnation du site. Clap de fin sur un demi-siècle d'histoire aéronautique morlaisienne. Chez les 276 salariés très qualifiés, l'écœurement est majuscule. Eddy, 48 ans, père de trois enfants et chef de projet avion, a consacré la moitié de sa vie à l'entreprise.
C'est un sentiment de dégoût, un sentiment d'injustice totale parce qu'on a sacrifié nos familles. On fait de la maintenance sur avion, on a des vies en jeu, comme les pilotes, et on nous laisse sur le carreau. Mes enfants, ils ne comprennent pas parce qu'on a toujours dit qu'on était les meilleurs et qu'on ferme, donc ils ne comprennent pas trop. Tous les gens ne sont pas bien dans leur tête, il y en a qui sont sous cachet. Ce qui se passe ici, c'est vraiment grave. Nos politiciens, ils nous prennent pour des cons, et encore plus la Bretagne. Donc maintenant, ça commence à suffire. Il y a eu les bonnets rouges, il y a eu les gilets jaunes, et je pense qu'un mélange bonnets rouges et gilets jaunes, M. Macron, il intéresse mes filles.
Alors, devant les grilles de Hop, des dizaines de croix plantées dans l'herbe et la liste de tous les salariés sacrifiés par Air France, s'indigne Valérie, 30 ans de maison. Le nouveau maire socialiste de Morlaix, Jean-Paul Vermeau, ne s'avoue pas vaincu.
Oui, ce territoire ici sera prêt à se lever pour sauver ses emplois.
Voilà, nous ne lâcherons rien. La pugnacité prend le pas ce matin sur l'abattement. Morlaix, François Coulon, Europe.
Autre mobilisation toujours dans le secteur de l'aérien. Les salariés d'Airbus à Toulouse manifestent devant le siège du constructeur aéronautique pour protester contre le plan qui prévoit la suppression de quelques 5000 emplois en France, dont 3500 rien que dans la ville rose. C'est un choc pour Emeric, cadre technique aux essais en vol.
Il y a encore quelques mois, on parlait de montée en cadence, on parlait de... Enfin, c'est d'une telle violence qu'on n'est pas encore remis de la claque et qu'on n'a pas tous encore vraiment réalisé ce qui nous arrive. Je dors un peu moins bien que d'habitude. Parce que tout simplement, quand on entend les chiffres, on se demande si on sera encore là dans quelques mois. J'ai une famille, j'ai ma femme qui est au chômage, donc mon emploi, il est important pour ma famille. Et puis, de toute façon, je pense que tous mes collègues, c'est un peu pareil, quoi. On a choisi Airbus, Airbus nous a choisi, et puis c'est aussi une passion. Mon arrière-grand-père a commencé chez De Wattin. Mon grand-père a connu le Concorde, je veux dire, on est né avec l'aéronautique, on vit avec l'aéronautique et c'est dans notre sang. C'est quelque part, c'est l'histoire familiale qui est liée à l'entreprise. C'est d'autant plus difficile parce que moi, c'était vraiment un rêve de gosse de rentrer dans l'entreprise. Donc, se dire que ça peut s'arrêter, c'est dur.
Un salarié d'Airbus à Toulouse au micro Europe 1 de Benjamin Peter. C'est une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs. Une de plus, la récolte française de blé tendre devrait baisser de plus de 20% cette année, selon le ministère de l'Agriculture, en cause notamment les très fortes pluies à l'automne dernier. Ce serait la deuxième plus faible récolte depuis 2004. Elle le martèle depuis plusieurs semaines. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France et également présidente d'Île-de-France Mobilité, a décidé d'arrêter de payer la SNCF et la RATP. 400 millions d'euros prévus pour le mois de juillet. La crise sanitaire et la faible fréquentation des transports en commun franciliens a amputé les revenus de l'autorité régulatrice des transports que préside Valérie Pécresse. Elle vient de placer ce matin, Île-de-France Mobilité en cessation de paiement. Aurélien Fleureau, c'est une manière de faire pression sur le gouvernement ?
Exactement, puisque la présidente de la région Île-de-France estime avoir joué le jeu pendant la crise sanitaire. D'abord, en remboursant 100 euros à chaque abonné du pass Navigo, ce qui représente environ 6 semaines de transport empêchés par le confinement. Et puis, en continuant à payer entièrement, comme d'habitude, les opérateurs que sont la SNCF et la RATP. Avec seulement 30% de trains en circulation, Île-de-France Mobilité estime qu'il y a eu 600 millions d'euros de trop perçus et se retrouve donc maintenant en grande difficulté financière. 1 milliard 600 000 euros de pertes de billetterie, 1 milliard d'euros liés au versement transport des entreprises. Voilà pourquoi le conseil d'administration vient de décider d'arrêter ces versements mensuels, ce qui ne réjouit pas Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, en déplacement ce matin dans le Bas-Rhin. Il répond à Arthur Mbaché.
Ce que je peux vous dire, c'est que la SNCF respectera ses obligations de service public. À partir du moment où on nous commande un service, il est normal qu'on nous paye pour le service que nous réalisons. Nous aussi, nous sommes touchés par la crise. Je rappelle que la SNCF a déjà perdu 4 milliards d'euros dans cette crise. On n'est pas, nous non plus, en très bonne situation financière. Voilà, donc les discussions sont engagées et j'espère que très rapidement, on saura trouver les voies et moyens d'une juste compensation des coûts que nous engageons pour assurer le service public en Île-de-France.
Valérie Pécresse attend désormais d'être reçue le plus vite possible par le Premier ministre. Elle est soutenue dans cette démarche par Anne Hidalgo. La maire de Paris vient d'évoquer sur son compte Twitter la situation financière très critique qui ne doit pas pénaliser les franciliens. Alors à ce stade, aucune conséquence directe pour les voyageurs, mais des travaux et le renouvellement de certains trains pourraient être retardés.
Explication signée Aurélien Fleureau. Le spectre d'une deuxième vague de Covid-19 est toujours loin d'être écarté. Bien au contraire, on vous parlait hier de Melbourne, deuxième ville d'Australie, qui reconfine sa population, du nombre de contaminations records aux États-Unis, du président brésilien lui-même infecté. Mais en Europe aussi, le virus continue de circuler, notamment chez nos voisins espagnols, portugais et britanniques, où des reconfinements, certes localisés, ont été à nouveau imposés. Pierre Herbulot.
Le Portugal s'en sortait jusque-là plutôt bien, plusieurs dizaines de foyers de contamination plus tard et 700 000 Lisboètes sont de nouveau confinés à domicile, privés également de stade. La phase finale de Ligue des Champions s'y jouera à huis clos. Dans l'Espagne voisine, deux régions ont pris des mesures de restriction de circulation, mais sans contraindre les habitants à rester chez eux. La Galice est autour de Lérida en Catalogne, où Cristina redécouvre la crainte du virus.
Déjà, on a peur que les hôpitaux se voient saturés, comme la dernière fois. Et on a peur, bien sûr, d'être touchés nous-mêmes. On s'y attendait Pas vraiment. Alors, pas évident de vivre avec tout ça.
Là-bas, c'est dans un foyer de travailleurs que l'épidémie est repartie, comme dans une petite ville du sud de l'Italie ou dans deux cantons allemands, 600 000 personnes reconfinées. Au Royaume-Uni, face à une recrudescence de cas, la ville de Leicester a dû rester cadenassée quand le reste du pays a repris vie la semaine dernière, raconte Jamie.
C'est une déception pour tout le monde. Ça touche aussi les commerces comme les coiffeurs et les pubs qui espéraient rouvrir. On avait l'impression que les restrictions allaient être levées. Mais normalement, dans une semaine, c'est bon.
L'Europe de l'Est n'est pas davantage épargnée. Après une première phase de déconfinement, l'Ukraine et l'Azerbaïdjan ont dû serrer la vis une seconde fois.
Et puis ces résultats qui interrogent aussi à Paris. Les derniers prélèvements dans les eaux usées montrent un retour du virus depuis une quinzaine de jours. On est à des niveaux minimes, mais cela pourrait signaler une reprise de l'épidémie, en tout cas une hausse du nombre de personnes malades.
Il est 12h48. Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, on va revenir sur la situation à Hong Kong où depuis plusieurs semaines, le mouvement de contestation fait l'objet d'une répression toujours plus intense de la part de Pékin. La Chine ne recule devant rien, elle vient même d'ouvrir ce matin un nid d'espions au cœur de la ville. A tout de suite sur Europe 1.
Le journal, 12h51 avec Julien Pierce.
La Chine serre la vis à Hong Kong. On vous racontait hier matin ces nouvelles directives. Manuels scolaires retirés s'ils évoquent le mouvement de contestation contre Pékin. Arrestations qui se multiplient. Eh bien, un nouveau cap vient d'être franchi avec l'ouverture ce matin à Hong Kong, au cœur de la ville, d'un bureau de défense de la sécurité nationale. Jean-Sébastien Soldaini, tout dans ce bureau va dans le sens d'un contrôle accru de la Chine.
Oui, vraiment, tout a un sens dans cette installation. Le lieu, tout d'abord, un hôtel qui domine le parc Victoria, c'est là que les manifestants pro-démocratie ont l'habitude de se rassembler. Et comme pour bien marquer le coup, un drapeau chinois a été déployé sur la devanture, avec une plaque vissée à l'entrée portant les emblèmes de la Chine. Cette plaque a été dévoilée ce matin par la chef de l'exécutif de Hong Kong. Pour elle, c'est un moment historique. Elle va même jusqu'à dire que ce bureau sera un partenaire important pour aider à préserver la sécurité et pour cause. À ses côtés, il y avait le responsable de ce nouveau service, Zheng Yangxiong, un envoyé de Pékin qui a gagné ses galons dans la répression d'un soulèvement en 2011. C'était dans la province du Guangdong, tout près de Hong Kong, au cas où les habitants de la ville n'auraient pas compris le message. Car officiellement, le rôle précis de ce bureau est assez vague, mais à bien y regarder, peu de doute possible, c'est bien le siège des services de renseignement de la Chine à Hong Kong.
Les explications de Jean-Sébastien Soldaini. Retour en France avec ce terrible accident de la route hier soir dans l'Oise, à proximité de Senlis. 4 personnes sont mortes et 3 grièvement blessées suite à une collision frontale entre 2 voitures. Les causes de l'accident restent pour l'instant inconnues. Ils illuminent les ciels de juillet, mettent un peu de couleur à la fête nationale. Les traditionnels feux d'artifice du 14 juillet seront pour beaucoup annulés cette année en raison de la situation sanitaire mais aussi économique. De nombreux maires préfèrent passer leur tour à Marseille. Marseille et Toulouse, décision déjà prise. À Paris, on réfléchit à un spectacle sans public. Et dans les petites communes, les feux d'artifice se feront aussi très rares, comme en Alsace. Le reportage, Arthur Mbaché.
Les fameux reflets du feu d'artifice dans les yeux des gamins du village. Rendez-vous incontournable, cette année rendez-vous manqué, regrette le maire de Gamsheim, Hubert Hoffmann.
Imaginez ici 2000 personnes qui viennent là et quand le feu d'artifice est lancé, ben ils sont tous regroupés au bord de l'eau.
Le feu d'artifice part de...
Il part de l'autre côté et puis il est tiré sur le plan d'eau. Et malheureusement cette année, ben, il n'aura pas lieu puisque, ben oui, en tant que maire, j'ai décidé de l'annuler. C'est pas le moment de créer un incident majeur, hein, un cluster à cause d'une décision mal prise. Voilà.
Ça c'est des mortiers calibre 75 ou 100.
Nous voilà dans l'entrepôt calme, trop calme, de Christian Trapon, artificier, leader du secteur en Alsace.
Là, on va être très peu de feux d'artifice, voire presque rien, hein, ça va se compter sur une main.
Alors qu'en général, c'est...
Presque 200 feux uniquement sur le département du Bas-Rhin.
Parmi les quelques irréductibles, Jean-Charles Lambert, le maire de Stutzheim-Offenheim, qui a la chance d'avoir une colline dans son village.
Cette année, nous n'organisons pas un rassemblement, mais nous avons choisi le point haut du village. Ce sont des tirs en hauteur, de sorte que de partout du village, on puisse le voir.
14 juillet, confiné, avec feu d'artifice, mais sans tarte flambée et picon à la buvette du club de foot. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
C'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing. En pleine mobilisation antiraciste un peu partout dans le monde, une comédie au nom évocateur sort aujourd'hui en salle. Elle s'appelle Tout simplement Noir. Et vous l'avez vu, pour nous, Mathieu Charrier, c'est l'histoire d'un acteur noir, raté, qui veut organiser une marche contre le racisme et ça n'engendre pas la mélancolie. Hein.
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits,
mais c'est pas conseillé.
JP est un acteur raté. À 40 ans, sa carrière patine et il décide subitement d'organiser une marche de l'homme noir pour la dignité. Marche réservée aux Noirs. Alors JP va tenter de convaincre d'abord des Noirs célèbres de l'accompagner, Lilian Thuram, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo, Lucien Jean-Baptiste. Puis il élargit ses cibles à Éric Judor, par exemple.
Je suis un putain de nez.
C'est ça.
Tourné à la manière d'un vrai faux documentaire, type c'est arrivé près de chez vous, la caméra suit JP et chaque rencontre est surtout propice à du grand n'importe quoi. JP veut maintenant convaincre Ramzi Bedia et Jonathan Cohen de le rejoindre.
On a des imams qui soutiennent.
Non, fais pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe.
Évidemment, derrière cette comédie aussi édifiante qui la rente, le film, ancré dans l'actualité, dénonce les violences policières ou la place réservée aux acteurs noirs en France.
Le point de vue était marrant d'avoir un mec qui lutte contre l'exclusion et pour sa marche, il exclut les gens. Et c'était un bon point de départ de comédie pour mon film. Ouais.
Qu'on arrête de parler de communauté noire aussi. Quand on voit les petits mouchoirs au camping, on dit pas que c'est un film sur la communauté blanche.
Quant à l'affiche du film, Jean-Pascal Zadi n'a pas hésité à revêtir les habits de président de la République pour poser type photo officielle à côté des drapeaux français et européens.
Eh ben, on sait ce qu'on va faire cet après-midi, Anissa.
On va
aller
rire.
Au cinéma. Mmh. C'était Mathieu Charrier.
Très drôle.
On passe à la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Anissa Haddadi, ce
oui,
sera très
prêt.
Nuageux au nord cet après-midi.
Et oui, et c'est à cause d'une perturbation qui, depuis ce matin, touche la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Dans toutes ces régions, vous vous êtes réveillé ce matin avec un ciel beaucoup plus gris que ces derniers jours. Avec même cet après-midi sur la Picardie, le nord, la Somme, Hélène, des petites averses à prévoir. Donc c'est un peu tristoun hein, comme journée. Sur la région parisienne et jusqu'au Grand Est, bien cet après-midi, le ciel sera de plus en plus nuageux. Mais le temps reste sec, nous n'aurons pas d'averse. Et puis au sud de la Seine, eh bien là, il fait très beau. Partout, sans exception, le soleil brille sans aucun nuage, avec tout de même sur les reliefs des Pyrénées et de la Corse quelques petits cumulus. Sur les côtes de la Manche et le littoral atlantique, attention, le vent d'ouest va souffler cet après-midi. Il se lève, il peut souffler fort jusqu'à 60 km/h, ce qui va rafraîchir l'atmosphère. D'ailleurs, je vais vous en parler dans un instant à la fin du journal de 13h, dans la météo des plages. On ira faire un tour sur les littoraux et vous verrez que par endroits, il va falloir mettre une petite combi. Les températures cet après-midi, elles sont fraîches dans le nord et le nord-ouest avec 18 degrés à Cherbourg, 20 à Brest, 21 au Havre. Les températures sont beaucoup plus estivales ailleurs avec 26 degrés à Paris et La Rochelle, 28 à Nantes et Biarritz, 29 à Ajaccio, Besançon et Chamalières à côté de Clermont-Ferrand, 31 degrés à Bordeaux, 33 à Auch et 35 à Nîmes. C'est la maximale cet après-midi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Merci Julien Pierce. Dans un instant, le journal de 13h. Et puis la France bouge avec Elisabeth Assayag. Aujourd'hui, on va revenir sur le Ségur de la santé et comment réinventer l'hôpital de demain. Restez avec nous, c'est jusqu'à 14h sur Europe 1.